Chapitre 9. Notice nécrologique au lit. Le retour de Cathy Morse. Direction Latchmore. Un dimanche matin, début août 2009, Brianna Donlan et moi lisions des notices nécrologiques au lit. Grâce au tour de passe-passe informatique, dont seuls les vrais geeks ont le secret, Brie avait réussi à capter les avis de décès d'une vingtaine des plus importants quotidiens du pays et à les organiser en liste alphabétique. Ce n'était pas la première fois que nous nous adonnions à ce passe-temps dans d'aussi agréables conditions, mais nous avions conscience, l'un comme l'autre, de nous rapprocher inexorablement de la dernière. En septembre, Brie s'en irait à New York passer des entretiens d'embauche dans le genre de boîte offrant des salaires de base à plus de 6 chiffres pour des boulots dans le secteur des technologies de l'information. Elle en avait déjà 4 notés dans son agenda, et j'avais mes propres projets. Mais le temps que nous avions passé ensemble avait été bon pour moi de multiples façons, et je n'avais aucune raison de ne pas la croire quand elle disait qu'il avait été bon aussi pour elle. Je n'étais pas le premier homme à avoir une liaison avec une femme de moins de la moitié de son âge, et si vous me disiez qu'il n'y a pas de pire imbécile qu'un vieil imbécile et pire satyre qu'un vieux satyre, je n'engagerais pas la controverse avec vous. Mais parfois ces liaisons-là sont parfaites, au moins sur le court terme. Ni elle ni moi n'avions d'attache sentimentale, et ni elle ni moi ne nous faisions d'illusions sur le long terme. C'est arrivé, point, et c'était Brianna qui avait fait le premier pas. Ça s'était passé environ 3 mois après le revival sous la tente du comté de Norris, et 4 après le début de notre collaboration informatique. Je n'avais pas eu trop de mal à me laisser convaincre, surtout quand elle s'était débarrassée de son chemisier et de sa jupe, chez moi, un soir. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» je lui avais demandé. « Absolument. » Elle m'a lancé un grand sourire. « Je vais bientôt être lâché dans le vaste monde et je crois que j'ai plutôt intérêt à régler mon complexe d'Œdipe avant. « Ton papa serait-il un ex-guitariste blanc par hasard ?» Ça la fit rire. « Tous les chats sont gris dans le noir, Jamie. Alors, on le fait maintenant ou pas ?» On l'a fait. Et c'était génial. Je mentirais si je vous disais que je n'étais pas excité par sa jeunesse. Elle avait 24 ans. Et je mentirais aussi si je vous disais que je pouvais suivre son rythme à chaque fois. Étendu de tout mon long à côté d'elle, ce premier soir-là, et plutôt exténué après le deuxième round, je lui ai demandé ce que Georgia en dirait. « C'est pas par moi qu'elle l'apprendra. Et par toi ?»« Par moi non plus. Mais Netherland est une petite ville. » « Exact. Et dans les petites villes, pas facile d'être discret, j'imagine. » Si elle s'avise de me poser des questions, je lui rappellerai simplement que jadis, elle a fait un peu plus pour Hugh Yates que tenir ses comptes.
« Tu déconnes. »
Elle a rigolé. « Est-ce que vous pouvez être neuneux des fois, les petits blancs ?» Un café sur sa table de chevet, un thé de mon côté, nous étions maintenant adossés à nos oreillers, l'ordinateur portable de Brie entre nous. Le soleil d'été, celui du matin, le meilleur, dessinait un rectangle sur le parquet. Brie portait un de mes t-shirts sans rien dessous. Ses cheveux courts la coiffaient d'un casque noir frisé. « Tu pourrais facilement continuer sans moi, me dit-elle. Tu fais semblant d'être nul en informatique, surtout pour pouvoir me garder là et me piquer la couverture la nuit. Mais se servir d'un moteur de recherche, c'est pas de la science dure. Et je crois que t'as assez d'infos, là, non ?» Elle n'avait pas tort. Nous avions commencé avec 3 noms tirés de la page témoignage de miracle du site web de C. Danny Jacobs. Robert Rivard, le gamin guéri de dystrophie musculaire à St. Louis, était le premier de la liste. À ces 3-là, Brie en avait ajouté d'autres dont j'étais sûr, pour les avoir glanés à la soirée de revival du comté de Norris, des noms comme celui de Rowena Wintour, dont le soudain rétablissement était difficile à mettre en doute. Si son visage baigné de larmes et sa démarche chancelante pour rejoindre son mari avaient été un coup monté, alors elle méritait un Oscar pour sa performance. Brie avait remonté la piste de la grande tournée de guérison du pasteur Danny Jacobs du Colorado à la Californie, 10 étapes en tout. Ensemble, nous avions regardé les nouvelles vidéos régulièrement postées sur la page Témoignages de miracles avec l'avidité de biologistes marins étudiant une espèce de poisson récemment découverte. Nous avions débattu de la validité de chacune, d'abord dans mon salon, plus tard dans ce même lit, pour finir par les classer en 4 catégories. Arnaque totale, possible arnaque, impossible de savoir vraiment et difficile de ne pas y croire. une liste principale avait progressivement émergé de ce processus. Ce matin d'août ensoleillé, dans la chambre de mon appartement au premier étage, cette liste comportait 15 noms. Des guérisons dont nous étions sûrs à 98%, sélectionnées dans un registre de près de 750 possibles. Robert Rivard figurait sur cette liste, Mabel Jurgens d'Albuquerque aussi, de même que Rowena Wintour et Ben Hicks, l'homme qui avait arraché sa Minerve et envoyé ses béquilles promener. Hicks était un cas intéressant. Lui et sa femme avaient confirmé l'authenticité de la guérison dans un article publié par le Denver Post deux semaines après le départ vers d'autres cieux du spectacle itinérant de Jacobs. Lui était prof d'histoire au collège communautaire de Denver, et sa réputation était impeccable. Il se qualifiait lui-même de sceptique sur le plan religieux et décrivait sa participation au revival du comté de Norris comme une tentative de la dernière chance. Sa femme corroborait ses dires. « Nous sommes impressionnés et pleins de reconnaissance, » disait-elle. Elle ajoutait qu'ils avaient recommencé à aller à l'église. Rivard, Jurgens, Mintour, Hicks et tous ceux qui figuraient sur notre liste principale avaient été touchés par les alliances sacrées de Jacobs entre mai 2007 et décembre 2008, date à laquelle s'était clôturée la tournée de Revival à San Diego. Brie avait entamé le travail de recherche le cœur léger, mais dès octobre 2008, son humeur s'était assombrie. C'était le moment où elle avait découvert un article, à peine un entrefilet, consacré à Robert Rivard dans le Weekly Telegram du comté de Monroe. Le communiqué indiquait que le garçon miraculé avait été admis à l'hôpital pour enfants de St. Louis pour des raisons sans relation avec son état de dystrophie musculaire antérieure. Brie s'était renseignée via ordinateur et téléphone. Les parents de Robert avaient refusé de lui parler, mais une infirmière de l'hôpital pour enfants s'était décidée lorsque Brie lui avait dit qu'elle essayait de dénoncer C. Danny Jacobs pour charlatanisme. Ce n'était pas exactement ce que nous faisions, mais ça avait marché. Après s'être assuré auprès de Brie que son nom n'apparaîtrait jamais dans aucun livre ou article de presse, l'infirmière avait révélé que le petit Rivard avait été admis pour ce qu'elle appelait des migraines en chaîne. On lui avait fait subir toute une batterie d'examens afin d'éliminer l'éventualité d'une tumeur au cerveau. Puis le jeune garçon avait été transféré à l'hôpital de Gads Ridge, à Oakville, Missouri. « C'est quel genre d'hôpital ?» avait demandé Brie. « Psychiatrique », avait répondu l'infirmière. Et pendant que Brie assimilait la nouvelle, la plupart des gens qui entrent à Gads n'en ressortent jamais. À Gads Ridge, les efforts de Brie pour en apprendre davantage s'étaient heurtés à un mur. Étant donné que je considérais Robert Rivard comme notre patient zéro, j'avais pris l'avion pour St. Louis, loué une voiture et m'étais rendu à Oakville. Après avoir passé plusieurs après-midi au bar le plus proche de l'hôpital, j'avais fini par tomber sur un aide-soignant qui avait accepté de parler pour le modeste émolument de $60. Robert Rivard avait toujours un parfait usage de ses jambes, me raconta l'aide-soignant, mais il n'allait jamais plus loin que le coin de sa chambre, et quand il s'y aventurait, il restait simplement planté là, comme un enfant mis au piquet pour avoir fait des bêtises, avant que quelqu'un ne le raccompagne à son lit ou à son fauteuil. Les jours avec, il mangeait, les jours sans, qui était nettement plus fréquent, il fallait l'alimenter artificiellement. Il était classé dans la catégorie des semi-catatoniques, un légume dans la terminologie de l'aide-soignant. « Il souffre toujours de migraines en chaîne ?» lui avais-je demandé. L'aide-soignant avait haussé ses robustes épaules. « Qui le sait ?»« Qui, en effet ?» D'après l'étendue de nos connaissances, 9 des personnes figurant sur notre liste principale se portaient bien. En faisait partie Rowena Mintour, qui avait repris son activité d'enseignante, et Ben Hicks, que j'étais allé interroger moi-même en novembre 2008, 5 mois après sa guérison. Je me suis gardé de tout lui dire. Je n'ai jamais fait allusion à de l'électricité, par exemple, fût-elle ordinaire ou d'un type particulier. Mais j'en ai dit suffisamment pour établir mes lettres de créance. Guérison d'une addiction à l'héroïne par Jacobs au début des années 90, suivi d'effets secondaires troublants qui avaient fini par s'atténuer puis disparaître. Ce que je voulais savoir, c'était si lui-même avait souffert de quelconques effets secondaires. Trous noirs, éclairs lumineux, somnambulisme, éventuellement accès verbaux assimilables au syndrome de la Tourette. « Pas du tout », m'avait-il répondu. « Il allait aussi bien que possible. » J'ignore si c'est Dieu qui a fait le travail par ses mains ou non, me confia Hicks autour d'un café dans son bureau. Ma femme le pense, et pourquoi pas? Mais personnellement, ça m'est égal. Je ne souffre pas et je marche 3 kilomètres par jour. Encore 2 mois, et j'espère obtenir le feu vert pour jouer au tennis, à condition que ce soit en double pour éviter de trop courir. Voilà ce qui compte pour moi. S'il a fait pour vous ce que vous me dites qu'il a fait, alors vous savez ce que je veux dire. Je savais en effet, mais je savais aussi autre chose. Que Robert Rivard jouissait de sa guérison en HP et qu'il sirotait du glucose en intraveineuse plutôt que du coca avec ses potes. Que Patricia Farmingdale, guérie d'une neuropathie périphérique à Cheyenne, Wyoming, avait tenté de se rendre aveugle en se versant du sel dans les yeux. Elle n'avait aucun souvenir de son geste, encore moins de sa motivation. Que Stephen Drew, de Salt Lake City, avait été saisi de crises de marche irrépressibles après avoir été guéri d'une supposée tumeur au cerveau. Ces marches, des marathons de 20 km pour certains, ne le prenaient pas pendant des moments d'absence. Non, l'envie lui venait brusquement, avait-il raconté, et il fallait qu'il parte. Que Veronica Fremont, d'Anaheim, avait souffert de ce qu'elle appelait des interruptions de vision. L'une d'entre elles avait eu pour conséquence une collision à petite vitesse avec un autre automobiliste. L'alcotest et la prise de sang pour vérifier la présence de drogue avaient été négatifs, mais elle avait quand même préféré renoncer à son permis de conduire, de crainte que cela ne se reproduise. Qu'à San Diego, la guérison miraculeuse d'Emil Klein d'une blessure au cervical avait été suivie de la compulsion périodique de sortir manger de la terre dans son jardin. Et il y avait Black Gilmore de Las Vegas, qui prétendait avoir été guéri d'un lymphome par C. Danny Jacobs à la fin de l'été 2008. Un mois plus tard, il perdait son emploi de croupier de blackjack après s'être mis à agonir ses clients d'insanité, des tricks du genre « Vas-y putain, joue, enculé de mes deux !» Lorsqu'il avait commencé à aboyer des horreurs semblables à ses 3 enfants, sa femme l'avait fichu à la porte. Il avait emménagé dans un motel miteux au nord de Fashion Show Drive. 2 semaines plus tard, on l'avait retrouvé mort sur le carrelage de sa salle de bain avec un flacon de Crazy Glue à la main. Il s'en était servi pour s'obstruer les narines et se sceller la bouche. Parmi toutes les notices nécrologiques que Bree avait inventoriées grâce à son moteur de recherche, celle de Gilmore n'était pas la seule en rapport avec Jacobs, mais c'était la seule pour laquelle le lien nous paraissait indiscutable. Jusqu'au retour de Kathy Morse. Malgré le thé noir que j'avais avalé, je sentais de nouveau le sommeil me gagner. J'attribuais cette somnolence à la fonction d'effilement automatique de l'ordinateur de Bree. Pratique, lui dis-je, mais aussi complètement hypnotique. Mon chou, me fit Bree, si je peux me permettre de paraphraser Al Jolson, t'as encore rien vu. L'an prochain, Apple va sortir un ordinateur format bloc-notes qui va révolutionner. Un bing l'a interrompu et le défilement automatique s'est arrêté. Bree a scruté l'écran où une ligne de texte apparaissait en surbrillance rouge. Oh oh, c'est l'un des noms que tu m'as donné quand on a commencé. Quoi? Je voulais dire, qui? Je n'avais pu lui fournir qu'une poignée de noms à l'époque, dont l'un était celui de mon frère Connie. Jacobs avait beau avoir invoqué l'effet placebo. Minute, papillon, laisse-moi cliquer sur le lien. Je me suis penché vers elle pour regarder. Mon premier sentiment fut le soulagement. Ce n'était pas Connie, évidemment, suivi d'une sorte d'horreur catastrophée. L'avis de décès, paru dans le World de Tulsa, était celui d'une certaine Catherine Ann Morse, survenue à l'âge de 38 ans. Décès accidentel, précisait la notice nécrologique. Puis, ni fleurs, ni couronne. La famille suggère une contribution sous forme de dons au réseau de prévention et d'aide contre le suicide. Ces dons sont exonérés d'impôts. Bree, j'ai dit, va voir le numéro de... Je sais quoi faire, laisse-moi. Puis, me regardant de plus près, t'es sûr que ça va? Oui, j'ai dit, même si je n'en étais pas si sûr que ça. Je revoyais Kathy Morse. Il y avait tant d'années, montée sur l'estrade des portraits à la foudre. Une jolie petite soude, jambes bronzées sous sa jupette en jean effrangé. Toutes les jolies filles sont électriques, avait dit Jacobs. Mais quelque part en chemin, la charge positive de Cathy avait viré au négatif. Il n'était pas fait question d'un mari, même si une fille aussi jolie n'avait pas dû manquer de soupirant. Aucun enfant non plus. Peut-être qu'elle préférait les filles, ai-je pensé, plutôt lamentablement. « Tiens, bébé, regarde !» m'a fait Brie. Elle a tourné l'ordinateur vers moi. Même journal. Une femme trouve la mort en se jetant du pont Cyrus Avery, clamait la une. Cathy Morse n'avait laissé aucune lettre d'explication et ses parents ne comprenaient pas son geste. « Je me demande si quelqu'un ne l'aurait pas poussé, » avait dit Madame Morse. Mais d'après l'article, l'hypothèse criminelle avait été écartée, sans que soit précisé par quel moyen. « C'est déjà arrivé, monsieur ?» m'avait demandé Monsieur Morse en 1992, après avoir flanqué son poing dans la figure de mon cinquième emploi et lui avoir ouvert la lèvre. « Est-ce qu'il a déjà fait perdre la boule à d'autres comme il a fait perdre la boule à McCarthy ?»« Oui, monsieur, » pensais-je à présent. « Oui, monsieur, je crois bien que c'est déjà arrivé. »« Jamie, tu peux pas en être sûr, » me dit Brie en me posant la main sur l'épaule. « 16 ans, c'est long. Ça peut être complètement autre chose. » Elle a pu apprendre qu'elle avait un cancer incurable ou une autre maladie mortelle, mortelle et douloureuse. « C'est lui, » j'ai dit. « Je le sais, et je pense que dorénavant, tu le sais aussi. » La plupart de ces cobayes s'en tirent bien, mais certains repartent avec une bombe à retardement dans la tête. C'était le cas de Cathy Morse, et sa bombe a explosé. Il y en a combien d'autres qui risquent d'exploser au cours des 10 ou 20 prochaines années ? J'étais en train de me dire que moi aussi, ça pouvait me concerner. Et Brie devait forcément en être consciente, elle aussi. Pour Hugh, elle ne savait rien, parce que ce n'était pas à moi de le lui raconter. Il n'avait pas eu de récidive depuis le soir du revival, et ces prismatiques-là avaient dû être causés par le stress. Mais ça pouvait recommencer, et même si nous n'en parlions pas. Je suis sûr qu'il devait le savoir aussi bien que moi. Des bombes à retardement. Alors maintenant, tu vas vouloir le retrouver. Et comment ? L'avis de décès de Catherine Ann Morse était la dernière preuve qu'il me fallait, celle qui acheva de sceller ma décision. Pour le persuader d'arrêter. Si je peux. Et s'il ne veut pas ? Alors je sais pas. J'irai avec toi si tu veux. Sauf qu'elle ne le voulait pas. Ça se lisait sur son visage. Elle s'était embarquée dans cette mission avec le goût pour la recherche d'une jeune femme intelligente. Il y avait eu nos séances amoureuses pour pimenter le tout. Mais désormais, la recherche avait perdu de sa pureté, et Brie en avait vu assez pour pouvoir être méchamment effrayée. « Toi, tu t'approches pas de lui, » je lui ai dit. Seulement, ça fait 8 mois que sa tournée est terminée, et la télé passe plus que des rediffs de son show. Je vais avoir besoin de toi pour trouver où il crèche ces jours-ci. « Ça peut se faire. » Elle écarta son ordinateur portable et glissa les mains sous le drap. « Mais d'abord, j'aimerais faire autre chose, si ça te dit. » Ça me disait. C'est un peu avant Labor Day que Brie Donlin et moi nous fîmes nos adieux dans ce même lit. Ce furent des adieux très physiques dans l'ensemble, gratifiants pour tous les deux, mais tristes aussi. Pour moi, plus que pour elle, je pense. Elle avait pour horizon New York et une vie de jeune et joli cadre dynamique sans attache. J'avais pour horizon le tournant redouté des 55 ans dans moins de 2 ans. Je me disais qu'il n'y aurait plus pour moi de jeunes et jolies femmes dynamiques, et sur ce plan-là, la vie ne m'a pas démenti. Brie s'est glissée hors du lit, tout en longues jambes et nudité splendide. « J'ai trouvé ce que tu voulais, » m'a-t-elle dit, en allant fourrager dans son sac posé sur la commode. Ça a été plus dur que j'imaginais, parce que maintenant, il se fait appeler Daniel Charles. C'est lui. Pas vraiment un pseudonyme, mais presque. Plutôt une précaution, je pense. Comme les célébrités qui descendent à l'hôtel sous un faux nom ou une variante de leur vrai nom pour semer les chasseurs d'autographes. Il loue l'endroit où il vit aujourd'hui sous le nom de Daniel Charles, ce qui est légal du moment qu'il a un compte en banque et qu'il n'est pas interdit bancaire. Mais dans certains cas, on est bien obligé d'utiliser son vrai nom si on veut rester dans la légalité. De quel cas tu veux parler, en l'occurrence ? Il a acheté une voiture l'an dernier à Poughkeepsie, New York. Rien d'un modèle dernier cri, juste une Ford Taurus beige, banale. Et il l'a immatriculée sous son vrai nom. Elle revint se mettre au lit et me tendit un bout de papier. « Tiens, beau gosse !» Sur le papier, il y avait écrit « Daniel Charles, alias Charles Jacobs, alias C. Danny Jacobs. Les Latches, Latchmore, New York, 12561. » « C'est quoi, les Latches ? Pas une maison de retraite, je suppose. » La propriété qu'il loue, le domaine plutôt, un domaine clôturé, tiens-toi bien. Latchmore se situe juste au nord de Newport, même code postal. Dans les Catskills, là où Rip Van Winkle a joué au bowling avec les lutins dans le temps. Sauf qu'à l'époque, tes mains sont douces et chaudes. Ce jeu s'appelait les quilles de neuf. Elle s'est blottie plus près, et j'ai dit ce que les hommes de mon âge se surprennent à dire de plus en plus souvent. J'appréciais la proposition, mais je me sentais pas capable d'y répondre pour le moment. Rétrospectivement, je regrette vraiment de ne pas avoir fait un petit effort. Une dernière fois, ça aurait été chouette. C'est pas grave, mon chou, serre-moi juste contre toi. Je l'ai serré contre moi. Je crois qu'on s'est rendormi, parce que lorsqu'on a de nouveau émergé, le soleil avait glissé du lit sur le parquet. Bree s'est levé d'un bond et a commencé à s'habiller. « Faut que je me bouge. J'ai un million de trucs à faire aujourd'hui. » Elle a attaché son soutien-gorge, puis m'a regardé dans le miroir. « C'est quand que tu vas le voir ?»« Sans doute pas avant octobre. » Hugh fait venir un type du Minnesota pour me remplacer, mais il ne pourra pas arriver avant. « Faut que tu restes en contact avec moi. Mail et téléphone. » Si j'ai pas de nouvelles de toi tous les jours quand t'es là-bas, je vais m'inquiéter. Je suis même capable de débarquer en voiture pour voir si tu vas bien. Ne fais pas ça, je lui ai dit. Alors reste en contact, un petit blanc, et j'y serai pas obligé. Tout habillée, elle est venue s'asseoir au bord du lit. Peut-être que t'auras même pas besoin d'y aller. T'y as pensé à ça? Il a aucune tournée de prévue, son site web est en stand-by, et il y a plus que des rediffs de son show à la télé. Je suis tombé sur un billet de blog l'autre jour qui demandait « Mais où diable est passé Pasteur Danny ?» Le fil de discussion tenait sur plusieurs pages. « Où tu veux en venir ?» Elle a pris ma main, entrelacé ses doigts avec les miens. On sait, enfin, pas vraiment, mais on est quasi certain qu'il a causé du tort à certaines personnes tout en soulageant d'autres. Bon, ce qui est fait, et ne peut pas être défait. Mais s'il a arrêté ses guérisons, il ne causera plus de tort à personne. Dans ce cas-là, à quoi bon aller l'affronter? S'il a arrêté ses guérisons, c'est qu'il a récolté assez d'argent pour passer à autre chose. À quoi? Je sais pas, mais d'après ses antécédents, ça pourrait être dangereux. Et, Bree, écoute. Je me suis assis et j'ai pris son autre main. Toute autre considération mise à part, il est temps que quelqu'un aille lui demander des comptes sur ses agissements. Elle a porté mes mains à sa bouche, couvrant l'une puis l'autre de baisers. « Mais pourquoi faudrait-il que ce quelqu'un soit toi, bébé? Après tout, tu es l'une de ses réussites. » C'est bien pour ça. En plus, Charlie et moi, c'est une longue histoire, une très longue histoire. Je ne l'ai pas accompagné à Denver International. Ça, c'était le boulot de sa mère. Mais Bree m'a appelé dès l'atterrissage, rendu volubile par un mélange d'excitation et de nervosité. Le regard fixé sur l'avenir, pas sur le passé. J'étais content pour elle. Quand mon téléphone a sonné, 20 minutes plus tard, j'ai pensé que c'était encore elle. Mais non, c'était sa mère. Georgia m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour parler. En déjeunant, peut-être. Oh, je me suis dit. On s'est retrouvés pour déjeuner chez McGee. Repas agréable, conversation agréable, tournant surtout autour de la musique. Quand nous avons décliné le dessert et accepté le café, Georgia a avancé son buste généreux au-dessus de la table. Elle est entrée dans le vif du sujet. « Alors, Jamie, c'est bon? Vous êtes passés à autre chose, tous les deux? » « Je... Georgia... Bon sang, arrête de marmonner et de bafouiller. Tu sais parfaitement de quoi je parle, et je vais pas t'arracher les yeux. Si j'avais le cœur à faire ça, je l'aurais fait l'an dernier, quand elle est tombée pour la première fois toute rôtie dans ton lit. » Elle a souri en voyant ma mine déconfite. Non, elle me l'a pas dit et j'ai pas demandé. Pas eu besoin. Je lis en elle à livre ouvert. Je parie qu'elle t'a même dit que je m'étais trouvé à peu près dans la même situation avec Hugh par le passé. Vrai? J'ai fait le geste de tirer une fermeture éclair sur mes lèvres. Son sourire s'est transformé en rire. Ah, c'est bien, ça. J'aime bien ça. Et je t'aime bien, toi, Jamie. Je t'ai aimé dès le premier jour. Quand t'es arrivé, maigre comme un clou, encore en train de purger ton système de la merde que tu t'injectais. Tu ressemblais à Billy Idol, mais un Billy Idol qu'on aurait traîné dans le caniveau. J'ai rien contre les amours mixtes, non plus, ni contre la différence d'âge. Tu sais ce que mon père m'a offert quand j'ai eu l'âge de passer mon permis? J'ai fait non de la tête. Une Plymouth 1960, avec la calandre à moitié enfoncée, des pneus lisses, les chromes rouillés et un moteur qui têtait l'huile recyclée au biberon. Il l'appelait le char d'assaut des champs. Il disait que tous les jeunes conducteurs devraient commencer par avoir une vieille caisse entre les mains avant de monter en grade et de passer à une bagnole susceptible de passer le contrôle technique. Tu vois où je veux en venir ? Je voyais parfaitement. Brie n'était pas une sainte nitouche, et elle avait eu sa part d'aventures sexuelles avant que je ne débarque. Mais j'avais été sa première relation longue. À New York, elle montrait en grade. Pas forcément avec un homme de sa couleur, mais certainement avec un de sa tranche d'âge. Je voulais juste en terminer avec ça, avant de passer à ce que je suis vraiment venu te dire. Elle s'est penchée un peu plus vers moi, la vague déferlante de son buste menaçant sa tasse de café et son verre d'eau. Elle n'a pas voulu m'en dire plus sur les recherches qu'elle a faites pour toi. Mais je sais que ça l'a secoué, et la seule fois où j'ai essayé d'en parler à Hugh, il a failli m'arracher les yeux. Des fourmis, j'ai pensé. Pour lui, toute l'assemblée ressemblait à des fourmis. Ses rapports à ce prédicateur-là, je le sais. Je n'ai rien dit. T'as avalé ta langue ? On pourrait dire ça, oui. Elle a hoché la tête et s'est adossée à son siège. D'accord, c'est bon. Mais à partir de maintenant, je veux que tu laisses Brian en dehors de ça, ok ? Ne serait-ce que parce que je n'ai même pas insinué que t'aurais mieux fait de ne pas fourrer ta vieille bite sous les jupes de ma fille. Elle est déjà en dehors de tout ça, on s'est mis d'accord là-dessus. Georgia esquissa un signe de tête professionnelle, puis... Hugh dit que tu pars en vacances ? Oui. Tu vas voir le prédicateur ? Je n'ai rien dit. Ce qui revenait à dire oui, et elle le savait. Sois prudent. Elle a tendu la main par-dessus la table et a entrelacé ses doigts avec les miens, comme sa fille aimait à le faire. Je ne sais pas dans quoi vous êtes allé fourrer votre nez, toi et Brie, mais ça l'a terriblement perturbée. J'ai pris l'avion pour Stewart Airport, à Newburgh, début octobre. Les arbres prenaient leur couleur d'automne et la route jusqu'à la petite ville de Latchmore était splendide. Le temps que j'arrive, l'après-midi touchait à sa fin et j'ai pris une chambre au motel 6 du coin. Il n'y avait pas de téléphone dans la chambre et encore moins de Wi-Fi, ce qui rendait mon ordinateur portable inapte à se connecter au monde extérieur. Mais je n'avais pas besoin de Wi-Fi pour trouver les Latches. Brie s'en était chargé pour moi. La propriété, ancienne résidence de la famille Van der Zanden, une vieille fortune européenne, était située sur la route 27, à 6 km à l'est du centre de Latchmore. Au début du XXe siècle, la fortune apparemment dilapidée, les Latches avaient été vendues et transformées en un sanatorium de luxe pour dames trop grosses et messieurs alcooliques. L'établissement avait existé pratiquement jusqu'au tournant du XXIe siècle. Depuis, il avait alterné les offres de vente et de location. Je pensais que j'allais avoir du mal à m'endormir, mais je n'ai pas demandé mon reste, et j'ai sombré au beau milieu d'une tentative de répétition de ce que je dirais à Jacobs quand je le verrais, si je le voyais. À mon réveil, de bonne heure le lendemain par une autre belle journée d'automne, j'ai décidé que l'improvisation serait peut-être la meilleure des stratégies. Si je n'avais pas posé de rails sur lesquels m'engager, raisonnais-je peut-être à tort. Je ne pourrais pas dérailler. Je suis monté dans ma voiture de location à 9 h, j'ai parcouru les 6 km sans rien trouver. 1 ou 2 km plus loin, je me suis arrêté à un stand de produits fermiers proposant les derniers légumes de saison. À mes yeux de garçon de la campagne, les pommes de terre paraissaient plutôt maigrichonnes, mais les citrouilles étaient énormes. Le stand était tenu par un couple d'adolescents. Leur ressemblance indiquait qu'ils étaient frères et sœurs, et leur mine qu'ils s'ennuyaient à mourir. Je leur ai demandé la direction des Latches. « Vous les avez dépassés, me dit la fille. » C'était la plus âgée des deux. C'est ce que je me disais. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé, je pensais avoir les bonnes indications et la propriété est tellement grande, elle ne doit pas passer inaperçue. « Il y avait un panneau avant, » expliqua le garçon, « mais le type qui la loue maintenant l'a enlevé. Papa dit qu'il doit aimer la solitude et maman que ça doit être un snob. « Ferme-la, Willy. » « Vous allez nous acheter quelque chose, monsieur ?»« Papa veut pas qu'on ferme avant d'avoir au moins vendu pour $30. »« Je vais vous prendre une citrouille, si vous me donnez de bonnes indications. » La fille a lâché un soupir théâtral. « Une citrouille, $1.50. Waouh !»« Qu'est-ce que vous diriez d'une citrouille à $5 ?»« Willy et sa sœur ont échangé un regard, puis elle m'a souri. « Ça marche !» Ma chère citrouille, trônant sur le siège arrière telle une petite lune rousse, j'ai rebroussé chemin. La fille m'avait dit de guetter un gros rocher avec « Metallica les meilleurs » tagué dessus. J'ai repéré le gros rocher et j'ai ralenti à 20 à l'heure. 200 mètres plus loin, je suis tombé sur l'embranchement que j'avais loupé avant. Le chemin était goudronné, mais plus haut, l'entrée était envahie de branchages et le sol couvert de monceaux de feuilles d'automne. Ça m'avait tout l'air d'un camouflage. Quand j'avais demandé aux deux gamins du stand s'ils savaient ce que faisait le nouveau locataire des lieux, ils s'étaient contentés de hausser les épaules. « Papa dit qu'il a dû faire fortune en bourse », m'avait dit la fille. « Il doit avoir beaucoup d'argent pour vivre dans un endroit comme ça. D'après maman, il doit bien y avoir 50 pièces. Pourquoi vous allez le voir ?» Ça, c'était le frère. Sa sœur lui a donné un coup de coude. « C'est pas poli, Willy. » J'ai répondu. « S'il est celui auquel je pense, je l'ai connu il y a bien longtemps, et grâce à vous, j'ai un cadeau pour lui. » J'ai soulevé ma citrouille. « Sûr, il pourra se faire un paquet de tartes avec ça, » dit le frère. « Ou une lanterne d'Halloween, » je me suis dit en tournant dans l'allée menant au Latchès. Des branches ont frotté les portières de ma voiture. Une avec une petite ampoule électrique bien lumineuse à la place de la traditionnelle bougie, juste au niveau des yeux. La route, car c'était une route large et goudronnée une fois passée l'intersection avec la chaussée, montait à flanc de colline en une série de lacets. Par deux fois, je dus m'arrêter pour laisser traverser des cerfs bondissants. Ils tournèrent la tête pour regarder ma voiture sans la moindre inquiétude. J'ai supposé que personne n'avait plus chassé dans ces bois depuis très très longtemps. Au bout de 5 kilomètres environ, je suis arrivé devant un portail en fer forgé fermé, flanqué de deux panneaux. Propriété privée sur la gauche et entrée interdite sur la droite. Il y avait un interphone fixé à l'un des piliers de pierre, surplombé d'une caméra inclinée de manière à filmer les visiteurs. J'ai pressé le bouton de l'interphone. Mon cœur battait la chamade et je transpirais. « Allô ? Y a quelqu'un ?» Aucune réponse d'abord. Puis enfin, « Vous désirez ?» La qualité du son était 1000 fois meilleure, épatante en fait, que celle généralement offerte par ce genre de système. Mais vu les centres d'intérêt de Jacobs, ça ne me surprenait guère. La voix n'était pas la sienne, mais elle m'était familière. « Je viens voir Daniel Charles. »« Monsieur Charles ne reçoit que sur rendez-vous, » m'informa la voix dans l'interphone. J'ai réfléchi une seconde, puis pressé de nouveau le bouton « Parler ». « Et Dan Jacobs, c'est le nom qu'il portait à Tulsa du temps où il tenait une baraque foraine appelée « Portrait à la foudre ». La voix dans la boîte a dit « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, je suis sûr que Monsieur Charles non plus. » Soudain, ça a fait tilt. Et j'ai su qui se cachait derrière cette voix de ténor roucoulante. « Dites-lui que c'est Jamie Morton, Monsieur Stamper, et rappelez-lui que j'étais là quand il a fait son premier miracle. » Un long, très long silence a suivi. Je me suis dit que la conversation était peut-être terminée, ce qui m'aurait laissé le bec dans l'eau. Sauf si je me mettais en tête d'enfoncer le portail avec ma petite voiture de location, et dans une pareille confrontation, j'étais à peu près sûr que le portail l'emporterait. Au moment où je m'apprêtais à repartir bredouille, Al Stamper a dit « C'était quoi ce miracle ?»« Mon frère Conrad avait perdu la voix. Le révérend Jacobs la lui a rendue. »« Regardez vers la caméra. » J'ai fait ce qu'il me demandait. Au bout de quelques secondes, une nouvelle voix a résonné dans l'interphone. « Mon Jamie, » a dit Charles Jacobs, « c'est formidable de te revoir. » Un moteur électrique s'est mis à ronronner et le portail a glissé sur un rail invisible. Comme Jésus marchant sur le lac de la paix, et je pensais en remontant en voiture. Il y avait un autre virage en épingle à cheveux à une 50aine de mètres de là et je n'avais pas terminé de le franchir que j'ai vu le portail se refermer derrière moi. L'association d'idées qui m'est venue, les habitants originels du jardin d'Éden chassés pour avoir mangé la pomme interdite, ne m'a guère surpris. Après tout, j'avais grandi avec la Bible. La demeure des Latchès était une vaste bâtisse qui avait dû commencer sa vie dans le style victorien avant de devenir un méli-mélo d'expériences architecturales. Elle comptait 3 étages, quantité de pignons, et une rotonde de verre côté ouest donnant sur les vallons, les coteaux et les lacs de la vallée de l'Hudson. La route 27 était un long ruban sombre déroulé à travers un paysage étincelant de couleurs. Le bâtiment principal était en bardage à clin peint en blanc et il y avait plusieurs vastes dépendances assorties. Je me suis demandé laquelle abritait le labo de Jacobs. Car l'une d'elles devait l'abriter, j'en étais sûr. Au-delà des bâtisses, le terrain remontait en une pente boisée encore plus abrupte. Stationné sous le péristyle, où naguère portiers et chasseurs avaient déchargé les automobiles de luxe des grosses curistes et des alcooliques, se trouvait la petite Ford Taurus que Jacobs avait immatriculée à son nom. Je me suis garé derrière et j'ai gravi les marches d'une galerie qui me parut aussi vaste qu'un terrain de football. Je tendais la main vers la sonnette, mais avant que je puisse presser le bouton, la porte s'ouvrit. Al Stamper était là, en pantalon à pattes d'éléphant, style années 70 et débardeur en batik. Il avait encore grossi depuis la dernière fois que je l'avais vu sous la tente du Revival, et je dirais qu'il devait faire à peu près la taille d'un camion de déménagement. « Bonjour, Monsieur Stamper. Jamie Martin, je suis un grand fan de vos chansons des débuts. » Je lui tendis la main, il ne la serra pas. « J'ignore ce que vous voulez, mais Monsieur Jacobs n'a pas besoin d'être dérangé. Il a beaucoup de travail et il a été souffrant. Vous voulez dire Pasteur Danny, non ?» J'ai demandé, enfin disons, plutôt raillé. « Venez à la cuisine. » C'était bien la voix chaude et roucoulante du frère Saul numéro un, mais le visage disait « La cuisine suffit amplement pour les gens de ton acabit. » Je voulais bien le suivre. La cuisine suffisait amplement pour les gens de mon acabit, mais avant qu'il ne puisse m'y introduire, une autre voix que je connaissais bien s'exclama « Jamie Martin, tu as le don de paraître au moment le plus opportun. » Il arrivait, longeant le corridor, boitant légèrement et tanguant à tribord. Sa chevelure, complètement blanche à présent, avait continué à se raréfier au-dessus des tempes, dégageant des arcs de cuir chevelu luisants. Ses yeux bleus, en revanche, étaient plus perçants que jamais, et le sourire qui retroussait ses lèvres avait quelque chose de prédateur, du moins à mes yeux. Il dépassa Stamper comme si le gros homme n'était pas là, sa main droite tendue vers moi. Cette main était aujourd'hui dépourvue d'anneau, bien qu'il en eût un à la main gauche. Une simple alliance en or, mince et éraflée. J'étais certain que sa sœur jumelle reposait sous terre dans le cimetière de Harlow, passée à un doigt qui n'est guère plus qu'un os. Nous avons échangé une poignée de main. « Ça fait un bail depuis tant ça, hein, Charlie ?» Il acquiesça, me secouant la main tel un politicien comptant sur un vote. « Un sacré bail ! Quel âge as-tu maintenant, Jamie ?»« 53. »« Et ta famille, comment vont-ils ?» Je les vois peu, mais Terry habite toujours à Harlow. C'est lui qui vend le fuel maintenant. Il a 3 enfants, 2 garçons et 1 fille, déjà grands. Connie continue d'observer les étoiles à Hawaï. Andy est mort il y a quelques années, crise cardiaque. Désolé de l'apprendre, mais tu as une mine du tonnerre, tu es en pleine forme. Vous aussi. C'était un mensonge éhonté, j'eus une brève pensée pour les 3 âges du grand mâle américain. Jeunesse, maturité, et t'as une putain de bonne mine. Vous devez avoir... combien ? 70 ? Pas loin. Il me secouait toujours la main. Il avait une bonne poigne, solide, mais je percevais néanmoins un tremblement ténu affleurant sous la peau. « Et Hugh Yates, tu travailles toujours pour lui ?»« Oui, il va bien. Il entendrait voler une mouche dans la pièce d'à côté. »« Parfait, parfait !» Il lâcha enfin ma main. « Al, Jamie et moi avons beaucoup à discuter. Vous voudrez bien nous apporter 2 verres de citronnade ? Nous serons dans la bibliothèque. » Vous n'allez pas recommencer à vous surmener ici ? Stamper me dévisageait avec défiance et antipathie. Il est jaloux, ai-je pensé. Il a eu Jacobs pour lui tout seul depuis la fin de la dernière tournée, et il n'a pas envie que ça change. Vous avez besoin de toutes vos forces pour votre travail. Ça ira très bien, il n'y a pas de meilleur remontant qu'un vieil ami. Suis-moi, Jamie. Il me conduisit au fond du grand hall d'entrée, dépassant sur la gauche une salle à manger aussi longue qu'un wagon Pullman, et 1, 2, 3 salons sur la droite, celui du milieu orné d'un énorme chandelier ressemblant à un accessoire escapé du film Titanic de James Cameron. Nous avons traversé une rotonde où le bois ciré cédait la place au marbre poli, et le bruit de nos pas a retenti. La journée était chaude, mais l'atmosphère intérieure confortable. Je percevais le ronron soyeux des climatiseurs et je me suis demandé combien il en coûtait de rafraîchir cet endroit au mois d'août quand les températures dépassaient largement le chaud. Me souvenant de l'atelier de Tulsa, mon estimation a été très peu. La bibliothèque était la pièce circulaire à l'extrémité de la maison. Des milliers de volumes occupaient les étagères incurvées, mais je voyais mal comment quiconque aurait pu lire ici avec un tel panorama sous les yeux. Le versant ouest était entièrement vitré, et mon regard s'étendait à l'infini sur des lieux de la vallée de l'Hudson, visible dans tous ses détails, y compris le fleuve de Cobalt étincelant dans le lointain. Ça rapporte de guérir les gens. J'ai repensé à Goat Mountain, ce terrain de jeu pour riches clôturé pour empêcher les péquenaudes du genre famille Morton d'y entrer. Il est certain panorama que seul l'argent peut acheter. De quantité de manière, confirma-t-il. Je n'ai pas besoin de te demander si tu ne touches plus à la drogue. Je le vois à ton teint et à tes yeux. M'ayant ainsi rappelé la dette que j'avais envers lui, il me pria de m'asseoir. Maintenant que j'étais là, en sa présence, je ne savais plus comment ni par où commencer. Je n'y tenais pas non plus, pas avec Al Stamper remplissant désormais les fonctions d'assistant majordome, risquant d'arriver d'un moment à l'autre avec les citronnades. Aucun besoin de s'inquiéter en réalité. Sans me laisser le temps de trouver un sujet de conversation banal pour tuer le temps, l'ex-chanteur des Volites entra, l'air plus grincheux que jamais. Il déposa un plateau entre nous sur une table en merisier. « Merci, Al, » dit Jacobs. « Pas de quoi. » S'adressant au patron et m'ignorant complètement. « Sympa votre pantalon, » j'ai dit. « Ça me rappelle le temps où les Bee Gees ont lâché le transcendantal pour passer au disco. Il vous manque plus que les compensés vintage pour aller avec. » Il m'a décoché un regard bien peu frère sot, bien peu chrétien en vérité, et il est sorti bruyamment. Il ne serait pas exagéré de dire que c'est un peu sorti en stampettant. Jacobs prit son verre de citronnade et se mit à siroter. À voir les brins de pulpe flottant à la surface, j'en déduisis qu'elle était faite maison, et à entendre les glaçons s'entrechoquer quand il reposa son verre, j'en déduisis que je ne m'étais pas mépris sur sa tremblotte. Sur ce coup-là, Sherlock pouvait aller se rhabiller. « Ça n'était pas très poli, Jamie, » me dit Jacobs, mais il paraissait amusé. « Surtout pour un invité. Un invité non invité, qui plus est. Laura aurait honte de toi. » J'ai laissé passer la référence à ma mère, sans aucun doute calculé. « Non invité ou pas, vous sembliez content de me voir. » « Bien entendu, pourquoi est-ce que je ne le saurais pas ? Goûte-moi cette citronnade, tu m'as l'air assoiffé. Et aussi, si je peux me permettre cette franchise, un peu mal à l'aise. » Je l'étais, mais au moins, je n'étais plus effrayé. Furieux, voilà ce que j'étais. J'étais là, assis, dans une maison gigantesque, entourée d'un terrain gigantesque, comprenant sans nul doute une piscine gigantesque et un parcours de golf, peut-être plus assez bien entretenu pour y pratiquer, mais néanmoins fleuron de la propriété. Une demeure de luxe pour les expérimentations électriques de fin de vie de Charles Jacobs. Pendant qu'ailleurs, Robert Rivard était debout dans un coin de chambre, probablement avec une couche-culotte entre les jambes parce que ses fonctions d'élimination étaient devenues le cadet de ses soucis. Pendant que Veronica Fremont allait travailler en bus parce qu'elle n'osait plus prendre sa voiture et qu'Emile Klein cassait peut-être encore la croûte avec la terre de son jardin. Sans compter Cathy Morse, la jolie petite Sooner, maintenant couchée dans un cercueil. Du calme, petit blanc, entendis-je Brie me conseiller. Tranquille. J'ai goûté à ma citronnade, puis j'ai reposé mon verre sur le plateau. M'en serait voulu de bousiller le luxueux fini lustré de la table en merisier. Ce putain de truc était probablement une antiquité. Et bon, peut-être que j'étais encore un peu effrayé. Mais au moins, les glaçons ne s'entrechoquaient pas dans mon verre. Jacobs, pendant ce temps, croisait sa jambe droite par-dessus la gauche et je notais qu'il avait besoin de la soulever à deux mains. Arthrite ?
Oui, mais supportable. Ça m'étonne que vous la guérissiez pas avec vos alliances sacrées. Ou est-ce que ça serait un cas d'auto-abus de confiance ?
Il se plongea dans la contemplation du spectaculaire panorama,
sans répondre. Ses sourcils grisaciers broussailleux, un monosourcil à vrai dire, s'étaient rejoints au-dessus de ses flamboyants yeux bleus. « Ou peut-être que vous avez peur des effets secondaires, c'est ça ?» Il leva la main pour me signifier « stop ». Assez d'insinuations, tu n'as pas besoin d'en faire avec moi, Jamie. Nos deux destinées sont trop intimement entrecroisées pour ça. Je ne crois pas plus à la destinée que vous ne croyez en Dieu. Il se tourna vers moi, me gratifiant à nouveau de ce sourire tout en dents et dépourvu de chaleur. Je répète, assez. Dis-moi pourquoi tu es venu et je te dirai pourquoi je suis content de te voir. Il n'y avait vraiment pas d'autre façon de le dire que le dire. « Je suis venu vous dire d'arrêter les guérisons. » Il sirota encore un peu de citronnade. « Et pourquoi ferais-je une telle chose, Jamie, alors que ça a fait tant de bien à tant de gens ?»« Tu sais pourquoi je suis venu, j'ai pensé. Puis une pensée encore plus dérangeante m'est venue. Tu m'attendais. » J'ai chassé cette idée de ma tête. « Ça n'a pas fait du bien à tout le monde. » J'avais notre liste dans la poche. Mais il n'était pas nécessaire de la sortir. J'avais mémorisé les noms et effets secondaires associés. J'ai commencé par Hugh et ses intermèdes prismatiques, dont celui qu'il avait frappé lors du revival du comté de Norris. Jacobs s'en est dédouané d'un haussement d'épaule. Le stress du moment. Il en a eu d'autres depuis ? Pas que je sache. Je pense qu'il te l'aurait dit puisque tu étais là la dernière fois que ça lui est arrivé. Hugh va très bien, j'en suis sûr. « Et toi, Jamie, des effets secondaires ?»« Des mauvais rêves. » Il partit d'un petit toussotement moqueur. « Qui n'en fait pas de temps en temps, moi y compris ?»« Mais tu n'as plus de trous noirs, dis-moi. Plus d'accès de paroles incontrôlées, de myoclonies, de tentatives de te transpercer la peau. »« Non. Alors, tu vois, pas plus méchant qu'un bras douloureux après une vaccination. » « Oh, je pense que les effets secondaires qui ont affligé certains de vos fidèles sont bien pires que ça. Robert Rivard, par exemple. Vous vous souvenez de lui ?»« Son nom me dit vaguement quelque chose, mais j'en ai guéri tellement. » Originaire du Missouri, dystrophie musculaire. Sa vidéo était sur votre site. » « Ah oui, je m'en souviens maintenant. Ses parents ont fait une très généreuse offrande d'amour. » Sa dystrophie musculaire est partie, mais sa raison aussi. Il est hospitalisé dans le genre d'institution qu'on appelle aussi un carré de légumes. « Je suis vraiment navré de l'apprendre, » dit Jacobs. Et il reporta son attention sur le panorama, le centre de l'État de New York étincelant de tous ses feux avant l'hiver. Je lui énumérai les autres, même s'il était clair qu'il savait déjà en grande partie tout ce que je lui racontais. Je ne l'ai réellement surpris qu'une seule fois à la fin, en lui parlant de Cathy Morris. Seigneur, a-t-il dit, la fille du père en colère. Je pense que le père en colère ferait plus que vous flanquer son poing dans la figure cette fois-ci. Enfin, s'il pouvait vous retrouver. Peut-être. Mais, Jamie, tu ne prends pas en compte la totalité du tableau. Il se pencha en avant, main serrée entre ses genoux osseux, yeux braqués sur les miens. J'ai guéri un si grand nombre de malheureux. Certains, ceux qui souffrent de troubles psychosomatiques, accomplissent en fait eux-mêmes leur guérison, comme je suis sûr que tu le sais. Mais d'autres ont bel et bien été guéris par la vertu de l'électricité secrète, même si Dieu en récolte le crédit, évidemment. Ses dents parurent brièvement dans un spasme de sourire sans joie. Laisse-moi te soumettre une hypothèse. Suppose que je sois un neurochirurgien et que tu viennes me voir pour une tumeur maligne au cerveau. Une tumeur pas impossible à opérer, mais très difficile. Opération très risquée. Suppose que je te dise que tes chances de mourir sur la table d'opération sont de, disons, 25%. Est-ce que tu ne prendrais pas quand même le risque, sachant que la solution alternative serait une période de calvaire suivie d'une mort certaine? Bien sûr que tu le prendrais. Tu me supplierais de t'opérer. Je n'ai rien dit, parce que la logique était imparable. Dis-moi, combien de gens penses-tu que j'ai effectivement guéri par le biais d'une intervention électrique ? Je ne sais pas. Mon assistante et moi n'avons répertorié que ceux dont nous pensions pouvoir être sûrs. La liste est plutôt courte. Il hocha la tête. Bonne technique de recherche. Content que vous l'approuviez. J'ai ma propre liste. Et elle est beaucoup plus longue. Parce que je sais quand ça marche, vois-tu? Quand il se passe quelque chose. Ça ne fait jamais aucun doute. Et sur la foi de mon suivi personnalisé, seulement quelques-uns souffrent par la suite d'effets secondaires. 3%, peut-être 5%. Comparé à l'exemple de la tumeur au cerveau que je viens de te donner, je dirais que c'est une infime probabilité. Avec sa formule de suivi personnalisé, il me coiffait au poteau. Moi, j'avais seulement eu Brianna. Lui avait des centaines, voire des milliers de fidèles, tous plus heureux les uns que les autres, de suivre de près l'évolution de ses guérisons. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de demander. Sauf pour Cathy Morse, vous étiez au courant de tous les cas que je vous ai rapportés alors? Il ne répondit pas, m'observa seulement. Il n'y avait pas la moindre expression de doute sur son visage, rien qu'une certitude inébranlable. Évidemment que vous étiez au courant. Vous tenez les comptes. Pour vous, ce sont des rats de laboratoire. Et qui s'intéresse si des rats de laboratoire tombent malades ou meurent? Ce que tu dis est terriblement injuste. Non, je ne pense pas. Vous y allez de la mise en scène religieuse, parce que si vous faisiez vos manigances ici, au Lachess, dans le labo que vous devez avoir, j'en suis sûr, le gouvernement vous arrêterait pour expérimentation sur des sujets humains, ayant parfois entraîné la mort. Je me penchai en avant sans le quitter des yeux. Les journaux vous qualifieraient de Joseph Mengele. Est-ce qu'on appelle un neurochirurgien Joseph Mengele juste parce qu'il a perdu certains de ses patients? Ils ne viennent pas vous voir pour des tumeurs au cerveau. Si, certains l'ont fait. Et beaucoup d'entre eux sont encore en vie aujourd'hui et apprécient de vivre au lieu d'être couchés sous terre. M'est-il arrivé d'exhiber de fausses tumeurs en tournée? Oui, et je n'en suis pas fier, mais c'était nécessaire. Parce qu'on ne peut pas exhiber quelque chose qui a cessé d'exister. Il médita un instant. Il est vrai que la majorité des gens qui sont venus à mes revivals ne souffraient pas de maladies en phase terminale, mais d'une certaine façon, ce genre de déficiences physiques non mortelles sont pires. Ce sont celles qui font vivre aux gens de longues vies de souffrance, de calvaire dans certains cas. Et toi, tu viens te poser en juge. Il secoua la tête avec tristesse, mais ses yeux n'exprimaient pas la tristesse. Il fulminait de colère. Cathy Morse ne souffrait pas, et elle ne s'est pas portée volontaire. Vous l'avez choisie dans la foule parce que c'était une fille canon, du sucre d'orge pour les gogos. Comme Bree avant lui, Jacobs fit observer qu'il pouvait y avoir eu une autre raison au suicide de Cathy Morse. 16 ans, c'est long. Il pouvait s'en passer des choses. « Vous n'êtes pas dupe, » j'ai dit. Il but et reposa son verre d'une main qui maintenant tremblait visiblement. « Cette conversation ne mène à rien. Parce que vous ne voulez pas arrêter? Parce que j'ai arrêté. C. Danny Jacobs ne dressera plus aucune tente de revival. À l'heure qu'il est, un certain nombre de discussions et de conjectures courent sur ce type-là sur Internet. Mais la capacité d'attention des gens est limitée. Sous peu, il s'estompera de l'esprit du public. Si tel était le cas, j'étais venu enfoncer une porte ouverte. Au lieu de m'apaiser, cette idée a augmenté mon malaise. Dans 6 mois, peut-être 1 an, le site web annoncera que le pasteur Jacobs a pris sa retraite pour raison de santé, après quoi il sera fermé. Pourquoi? Parce que vos recherches sont terminées? Sauf que je ne croyais pas que les recherches de Charlie Jacobs seraient un jour terminées. Il s'est encore détourné pour contempler la vue. Finalement, il a décroisé les jambes et s'est levé en s'appuyant sur les accoudoirs de son fauteuil. Suis-moi dehors, Jamie. Je veux te montrer quelque chose. Al Stamper, montagne de graisse en pantalon disco des années 70, était assis à la table de la cuisine. Il triait du courrier. Devant lui, sur une assiette, une pile de gaufres dégoulinait de beurre et de sirop. Un carton d'emballage de bouteilles d'alcool était posé à côté de lui. Par terre, près de sa chaise, il avait 3 casiers en plastique, USPS, remplis de lettres et de paquets. Comme nous traversions la cuisine, je le regardais ouvrir une enveloppe Kraft et la secouer pour en faire tomber une lettre manuscrite, la photo d'un petit garçon en fauteuil roulant et un billet de $10. Il déposa le billet dans le carton d'emballage et parcourut la lettre tout en croquant dans une gaufre. Debout à côté de lui, Jacobs paraissait plus maigre que jamais. Cette fois-ci, Ce ne fut pas à Adam et Ève que je pensais, mais à Jack Spratt de la comptine, qui ne pouvait pas manger gras, et sa femme qui ne pouvait pas manger maigre. La tente est peut-être pliée, j'ai fait, mais je vois que les offrandes d'amour continuent à arriver. Stumper m'a décoché un regard d'indifférence malveillante, pour peu qu'une telle chose existe, puis il est retourné à son courrier et à ses gaufres. « Nous lisons toutes les lettres, m'a dit Jacobs. N'est-ce pas, Al ?»«
Oui. »«
Et vous répondez à toutes ?» j'ai demandé. « Nous devrions le faire, a dit Stumper. C'est ce que je pense, en tout cas. Et nous le pourrions si j'avais de l'aide. » Une personne de plus suffirait, et un ordinateur pour remplacer celui que Pasteur Danny a embarqué dans son labo. « Nous en avons déjà discuté, Al, dit Jacobs. Si nous commençons à correspondre avec les suppliants, on n'en finira jamais, je sais. Je me demande juste ce qu'est devenu le travail du Seigneur. « Vous êtes en train de le faire, dit Jacobs. » Sa voix était douce, mais il y avait de l'amusement dans ses yeux, ceux d'un homme regardant un chien exécuter un tour. Sans répondre, Stumper ouvrit simplement la lettre suivante. Pas de photo dans celle-ci, rien qu'une lettre accompagnée d'un billet de $5. « Viens, Jamie, dit Jacobs, laissons-le tranquille. » En arrivant, les dépendances m'avaient paru coquettes et bien entretenues, mais de près je m'apercevais que les planches se fendaient par endroits et que la peinture s'écaillait. Le gazon des Bermudes que nous foulions, qui avait dû coûter une petite fortune lors de l'aménagement paysager du domaine, avait besoin d'un coup de tondeuse. Si ça n'était pas fait sans tarder, l'hectare de pelouse derrière la maison allait retourner à l'état de prairie naturelle. Jacob s'arrêta. « D'après toi, dans quelle dépendance se trouve mon labo ?» J'ai désigné la grange la plus grande, de la taille approximative de la carrosserie auto de Tulsa. Jacob sourit. Sais-tu que l'équipe qui travaillait sur le projet Manhattan s'était constamment réduite avant le premier essai atomique à White Sands? J'ai fait non de la tête. Quand la bombe a explosé, plusieurs des préfabriqués qui servaient de dortoir aux employés étaient déjà vides. Voici une règle fort peu connue de la recherche scientifique. À mesure que l'on progresse vers le but ultime, les infrastructures de soutien tendent à se réduire. Il m'a conduit vers ce qui ressemblait à une humble cabane à outils, a sorti un trousseau de clés de sa poche et a ouvert la porte. Je m'attendais à ce qu'il fasse chaud à l'intérieur, mais il y faisait aussi frais que dans la grande maison. Un établi, vide à part quelques carnets et un ordinateur Macintosh sur l'écran duquel galopaient sans fin des chevaux, occupait tout le mur gauche. Devant le Mac, un fauteuil d'allure ergonomique et coûteuse. Le mur droit était occupé par des étagères sur lesquelles étaient posés des boîtiers métalliques ressemblant à des cartouches de cigarettes plaquées argent, sauf que les cartouches de cigarettes ne bourdonnent pas comme des amplis en veille. Par terre était posé un caisson, vert celui-là, de la taille approximative d'un mini-frigo de chambre d'hôtel, avec un écran de télé posé dessus. Jacobs tapa doucement dans ses mains et l'écran s'alluma, affichant une série de colonnes, rouges, bleues et vertes, montant et descendant d'une façon évoquant un peu un mouvement de respiration. Question divertissement, je ne pensais pas que ça rivaliserait jamais avec Big Brother. C'est ici que vous travaillez?
Oui.
Où sont vos instruments, vos machines? Il désigna le Mac, puis l'écran de télé. Là et là. Mais le plus important, il désigna sa propre tempe, tel un homme mimant le suicide. Là-haut. « Je t'annonce que tu te trouves dans l'établissement de recherche électronique le plus perfectionné du monde. Les choses que j'ai découvertes dans cette pièce réduisent à l'insignifiance les découvertes d'Edison, à Menlo Park. Des choses qui pourraient transformer le monde. » « Mais cette transformation entraînerait-elle son amélioration ?» me suis-je demandé. Je n'aimais pas l'expression rêveuse et possessive de son visage, tandis qu'il promenait son regard sur ce qui, à mes yeux, ne ressemblait quasiment à rien. Mais je ne pouvais taxer ses prétentions d'illusion. Une impression de puissance somnolente se dégageait des cartouches métalliques et du caisson vert grand comme un frigo. On éprouvait, dans cet abri, la même sensation qu'à se trouver trop près d'une centrale électrique tournant à plein régime, assez près pour sentir les volts échappés vous ricocher dans les amalgames dentaires. « Je produis actuellement de l'électricité par géothermie. » Il tapota le caisson vert. « Voici un générateur géosynchrone. En dessous se trouve une canalisation de puits d'un diamètre équivalent à celle qui permettrait de desservir une laiterie de campagne. Or, à moyenne puissance, ce générateur pourrait créer suffisamment de vapeur super chaude pour alimenter non seulement les Lachesse, mais toute la vallée de l'Hudson. À pleine puissance, il pourrait porter tout l'aquifère à ébullition comme de l'eau dans une bouilloire, ce qui pourrait s'avérer contre-productif. Il rit de bon cœur. « C'est pas possible, j'ai dit. » Mais évidemment, guérir des tumeurs au cerveau ou des moelles épinières sectionnées avec des anneaux sacrés ne l'était pas non plus. « Je t'assure que si, Jamie. Avec un générateur à peine plus gros, que je pourrais facilement construire avec des pièces détachées disponibles par correspondance, il me serait facile d'éclairer toute la côte Est. » Il avait annoncé ça tranquillement, sans se vanter, énonçant seulement un fait. « Je ne le fais pas parce que générer de l'énergie ne m'intéresse pas. Laissant le monde suffoquer sur ses propres déjections, en ce qui me concerne, il ne mérite pas mieux. Quant à l'objectif que je poursuis, je crains que l'énergie géothermique ne soit une impasse. Elle n'est pas suffisante. » Il contempla d'un air sombre les chevaux qui s'étaient remis à galoper sur son écran d'ordinateur. « J'espérais davantage de cet endroit, surtout en été quand... Mais peu importe. Et rien de tout ça ne fonctionne à l'électricité telle qu'on la comprend aujourd'hui ?» Il m'adressa un regard de mépris amusé. « Bien sûr que non. Ça fonctionne à l'énergie secrète ?»« Oui, c'est comme ça que je l'appelle. » Une sorte d'électricité que personne d'autre que vous n'a découvert depuis Scribonius. Vous, un ministre du culte qui avait pour passe-temps de fabriquer des joujoux électriques à piles.
Oh si, elle est connue. Ou disons qu'elle l'était.
Dans De Vermis Mysteris, écrit à la fin du XVe siècle, Ludwig Prin l'évoque. Il l'appelle Potestas Magnum Universum, la force qui actionne l'univers. Prin cite en fait Scribonius. Depuis mon départ de Harlow, la Potestas Universum, sa quête, la recherche de sa maîtrise, est devenue toute ma vie. Je voulais croire qu'il était le jouet d'illusions, mais les guérisons et les étranges portraits tridimensionnels que je lui avais vus créer à Tulsa plaidaient contre cette interprétation. Peut-être que ça n'avait pas d'importance, en fait. Peut-être que tout ce qui importait était de savoir s'il m'avait dit ou non la vérité sur la mise au rencard de C. Danny Jacobs. S'il en avait terminé avec les guérisons miraculeuses, alors ma mission était accomplie, non ? Il adopta un ton de conférencier. Pour comprendre comment j'ai progressé jusqu'ici et accompli autant tout seul, tu dois garder à l'esprit que la science est, par bien des façons, tout aussi changeante que l'industrie de la mode. L'explosion de Trinity a eu lieu à White Sands en 1945. 4 ans après, les Russes procédaient à leur propre explosion atomique à Semipalatinsk. De l'électricité fut générée pour la première fois par fission nucléaire à Arco, Idaho, en 1951. Au cours du demi-siècle qui a suivi, l'électricité est devenue la vilaine demoiselle d'honneur pendant que l'énergie nucléaire devenait la belle mariée devant laquelle tout le monde se pâme. Bientôt, la fission sera rétrogradée au rang de vilaine demoiselle d'honneur et la fusion deviendra la belle mariée. Pour ce qui est de la recherche théorique en électricité, les bourses et les subventions sont épuisées. Plus grave, l'intérêt s'est épuisé. L'électricité est désormais considérée comme une antiquité, alors que toutes les sources d'énergie moderne doivent bien être converties en ampères et en volts. Le ton, à présent, était moins à la conférence qu'à l'indignation. En dépit de son immense pouvoir de destruction et de guérison, en dépit de la façon dont elle a réorganisé la vie de chaque être humain sur cette planète, et en dépit du fait qu'elle n'est toujours pas comprise, la recherche scientifique dans ce domaine est considérée comme un allègre mépris. Les neutrons sont sexy, l'électricité est terne, l'équivalent d'un entrepôt poussiéreux d'où tous les articles de valeur ont été retirés pour ne laisser que des rebuts inutiles. Mais la pièce n'est pas vide. Il y a une porte dérobée dans le fond qui mène vers des salles que bien peu encore ont aperçues. Des salles remplies d'objets d'une surnaturelle beauté. Et ces salles se succèdent sans fin. Vous commencez à me filer les jetons, Charlie. J'avais voulu donner un tour léger à mes paroles, mais elles ont résonné d'un écho affreusement sérieux. Il n'y prêta aucune attention. Il se mit à déambuler en claudiquant entre l'établi et les étagères. le regard rivé au sol, touchant le caisson vert à chacun de ses passages, comme pour s'assurer qu'il était bien là. Oui, d'autres ont visité ces salles. Je ne suis pas le premier. Scribonius pour commencer, Prine ensuite. Mais la plupart ont gardé leurs découvertes secrètes, tout comme je l'ai fait. Parce que ce pouvoir est énorme, inconnaissable en vérité. L'énergie nucléaire, pfff, c'est une farce. Il toucha le caisson vert. Ce qu'il y a là-dedans, connecté à une source d'énergie suffisamment puissante, rendrait l'énergie nucléaire aussi insignifiante que le pistolet à amorce d'un gosse. Je regrettais de ne pas avoir emporté mon verre de citronnade parce que j'avais la gorge très sèche. Je dus me l'éclaircir avant de réussir à parler. « Charlie, admettons que tout ce que vous me dites soit vrai. Comprenez-vous à quoi vous avez affaire? Comment cela fonctionne ?»« Question légitime. Laisse-moi t'en poser une à mon tour. Comprends-tu ce qui se passe quand tu actionnes un interrupteur? Pourrais-tu m'énumérer la séquence d'événements qui aboutissent à ce que la lumière bannisse les ombres d'une pièce obscure? Non. Saurais-tu même dire si cette légère pression de tes doigts ouvre ou ferme un circuit? Aucune idée. Pourtant, cela ne t'a jamais empêché d'allumer la lumière, pas vrai? Ni de brancher ta guitare électrique quand le concert allait commencer. Exact. Mais je ne l'ai jamais branché à un ampli assez puissant pour envoyer du son de New York à la Nouvelle-Orléans. » Il m'adressa un regard de suspicion si sombre qu'il semblait friser la paranoïa. « Tu tiens peut-être là un argument, mais je crains de ne pas le saisir. » J'étais persuadé qu'il disait la vérité, et c'était peut-être bien ça le plus effrayant de tout. Peu importe. Je l'ai pris par les épaules pour qu'il arrête de faire les 100 pas, et j'ai attendu qu'il me regarde. Sauf que même avec ses grands yeux fixés sur mon visage, il donnait plutôt l'impression de regarder à travers moi. « Charlie, si vous ne guérissez plus les gens, et si vous ne voulez pas régler la crise de l'énergie, que cherchez-vous ?» Il ne m'a pas répondu tout de suite. Il semblait en transe. Puis il s'est dégagé et remis à faire les 100 pas, en reprenant son ton de conférencier. Les instruments de transfert, ceux que j'utilise sur les êtres humains, ont subi un certain nombre de modifications. Lorsque j'ai guéri Hugh Yates de sa surdité, j'utilisais de grands anneaux plaqués or et palladium. Je les trouve aujourd'hui d'un rétro parfaitement grotesque. Des vidéocassettes à l'ère du téléchargement numérique. Le casque audio que j'ai utilisé avec toi était plus petit et plus puissant. Quand tu as débarqué avec ton problème d'héroïne, j'étais déjà passé du palladium à l'osmium. L'osmium est moins onéreux, un plus quand on est limité financièrement, ce qui était mon cas à l'époque. Et les écouteurs étaient efficaces. Mais ça n'aurait pas fait très bon effet dans un revival, si? Est-ce que Jésus mettait des écouteurs? Sans doute que non, j'ai dit. Mais je doute également qu'il ait porté des alliances, vu qu'il était célibataire. Encore une fois, Jacobs ne me prêta aucune attention. Il marchait de long en large comme un détenu en cellule, ou les paranoïaques qui déambulent dans toutes nos grandes cités, ceux qui veulent parler de la CIA et du complot juif international et des secrets des Rose-Croix. Alors je suis revenu aux anneaux et j'ai créé une histoire pour les rendre agréables à mes fidèles. Un boniment, autrement dit. Ma réflexion l'a ramené sur terre. Il a esquissé un sourire amusé et, l'espace d'un instant, j'ai retrouvé le révérend Jacobs dont je me souvenais depuis l'enfance. Oui, d'accord, un boniment. Mais j'utilisais déjà un alliage de ruthénium et d'or, et, en conséquence, les anneaux étaient plus petits et encore plus puissants. On sort, Jamie? Tu m'as l'air un peu ébranlé. Je le suis. Je ne comprends peut-être pas votre courant, mais je le sens. C'est comme s'il mettait mon sang en effervescence. Jacobs rigola. Oui, on peut dire que l'atmosphère ici est électrique. Ah, moi je m'y sens bien, mais bon, j'y suis habitué. Viens, sortons respirer le grand air. Jamais le grand air ne me parut plus doux que lorsque nous regagnâmes la maison d'un pas de promenade. J'ai encore une question, Charlie, si ça ne vous dérange pas. Il soupira, mais ne paraissait pas mécontent. sorti de ce petit réduit propre à induire la claustrophobie, il semblait redevenu sain d'esprit. Je me ferai un plaisir d'y répondre, si je le peux. Vous racontez au gogo que votre femme et votre fils se sont noyés. Pourquoi est-ce que vous mentez? Je ne vois pas à quoi ça peut vous servir. » Il s'arrêta et baissa la tête. Quand il la releva, je vis que son expression de normalité sereine s'était fait la malle, si tant est qu'elle eût jamais été là. Sur son visage se lisait une rage si sombre et si profonde qu'involontairement j'ai fait un pas en arrière. Le vent avait ramené sur son front une mèche de ses cheveux clairsemés. Il la rabattit en arrière, puis pressa ses paumes sur ses tempes comme un homme souffrant d'un mal de tête monstre. Mais quand il parla, sa voix était basse et atone. Sans cet éclat de folie sur son visage, j'aurais pu la confondre avec la voix de la raison. « Ils ne méritent pas la vérité. Tu les as appelés gogo, et comme tu as raison. Ils ont mis ce qu'ils ont de jugeote au rancard, et certains en ont pas mal, pour placer leur foi dans cette gigantesque et frauduleuse compagnie d'assurance appelée religion. Elle leur promet une éternité de joie dans l'autre monde, s'ils vivent en se conformant aux règles dans celui-ci. Et beaucoup d'entre eux essaient. Mais même ça, ça ne suffit pas. Quand la douleur frappe, ils demandent des miracles. Pour eux, je ne suis qu'un sorcier qui les touche avec des anneaux magiques au lieu d'agiter des crécelles en os au-dessus de leur corps. Aucun d'entre eux n'a découvert la vérité. Mes recherches avec Brie m'avaient convaincu que Fox Mulder avait raison sur un point. La vérité est ailleurs. Et n'importe qui, à notre époque moderne, où quasi tout le monde vit exposé au regard comme dans une maison de verre, peut la découvrir grâce à un ordinateur et une connexion Internet. Tu ne m'écoutes pas. Ils ne méritent pas la vérité. Et c'est très bien comme ça puisqu'ils ne la veulent pas. Il sourit et ses dents, mâchoires serrées, apparurent entre ses lèvres. Ils ne veulent pas des béatitudes du chant des chants non plus. Ils veulent seulement être guéris. Stamper ne leva pas les yeux lorsque nous retraversâmes la cuisine. Deux des casiers de courrier étaient vides et il terminait le troisième. Le carton paraissait à moitié plein. Il y avait des chèques, mais je vis surtout des billets froissés. Le mot de sorcier qu'avait prononcé Jacobs me revint à l'esprit. En Sierra Leone, il aurait eu une file de clients devant sa porte, les bras chargés de produits agricoles et de poulets à qui on venait de tordre le cou. Même chose tout ça. Vraiment. Juste la carotte, l'oseille, le blé. De retour dans la bibliothèque, Jacob s'assit avec une grimace et termina sa citronnade. « Je vais passer tout l'après-midi à pisser, me dit-il. C'est la malédiction de la vieillesse. La raison pour laquelle j'étais content de te voir, Jamie, c'est parce que je veux t'embaucher. »« Vous voulez quoi ? Tu m'as bien entendu. Al va bientôt me quitter, je ne suis pas sûr qu'il le sache encore, mais moi oui. » Il ne veut pas être impliqué dans mon travail scientifique, même s'il sait qu'il est la base de mes guérisons. Il trouve que c'est une abomination. J'ai failli dire « Et s'il avait raison ?» Tu peux faire son travail, ouvrir le courrier du jour, répertorier les noms des correspondants et leurs doléances, compter les offrandes d'amour et, une fois par semaine, aller jusqu'à Latchmore, déposer les chèques. Tu répondras aux visiteurs intempestifs. Leur nombre diminue, mais nous en avons encore une petite dizaine par semaine. Et te chargera de les éconduire. » Il se tourna pour me regarder dans les yeux. « Tu pourras aussi faire ce que Al refuse de faire, m'aider dans la dernière ligne droite de mon projet. J'approche du but, mais je ne suis plus aussi solide. Un assistant me serait d'une aide inestimable et toi et moi avons travaillé efficacement ensemble par le passé. J'ignore combien Hugh te paye, mais je double la mise. Non, je la triple. Qu'en dis-tu ? » D'abord, je ne pus rien dire. J'étais abasourdi. Jamie, j'attends. Je pris mon verre de citronnade et cette fois-ci, les restes de glaçons finissant de fondre s'entrechoquèrent. Je bus, puis le reposai. Vous parlez d'un but. Dites-moi quel est ce but. Il médita ou parut le faire. Pas encore. Viens travailler avec moi et apprends à connaître un peu mieux le pouvoir et la beauté de l'électricité secrète. Ensuite, peut-être. Je me suis levé et je lui ai tendu la main. C'était sympa de vous revoir. Encore un de ces trucs qu'on dit, un peu d'huile pour graisser les rouages, mais ce mensonge-là était sacrément plus gros que lui dire qu'il avait l'air en pleine forme. « Prenez soin de vous, et soyez prudent. » Il se leva, mais ignora ma main tendue. « Tu me déçois. Et, je l'avoue, tu me fâches. Tu as fait toute cette route pour venir rabrouer un vieil homme fatigué qui t'a naguère sauvé la vie. Charlie, que ferez-vous si cette électricité secrète échappe à votre contrôle ?»« Elle n'échappera pas à mon contrôle. » Je parie que les responsables de Tchernobyl se disaient ça aussi. « Ça, c'est plus bas que bas. Je t'ai admis sous mon toit parce que j'escomptais compréhension et gratitude. Je vois que je me suis trompé sur toute la ligne. Hal te montrera la sortie. J'ai besoin de m'allonger. Je suis très fatigué. Charlie, j'éprouve de la gratitude. J'apprécie ce que vous avez fait pour moi, mais... » Mais... Son visage était de marbre et son teint gris. Il y a toujours un mais. L'électricité secrète mise à part, je ne peux pas travailler pour un homme qui se venge sur des gens brisés parce qu'il ne peut se venger sur Dieu d'avoir tué sa femme et son fils. Son visage vira du gris au blême. « Comment oses-tu? Comment oses-tu? Vous en guérissez peut-être quelques-uns, mais vous crachez sur tous. Je m'en vais maintenant. Je n'ai pas besoin de M. Stamper pour m'indiquer la sortie. » J'ai pris le chemin de la porte d'entrée. Je traversais la rotonde, mes talons claquant sur le dallage de marbre, quand il me rappela, d'une voix amplifiée par ce vaste espace. « Nous n'en avons pas terminé, Jamie. Je te le promets, nous n'avons même pas commencé. » Je n'avais pas non plus besoin de Stamper pour ouvrir le portail. Il a coulissé automatiquement dès que ma voiture s'est approchée. À l'entrée de la route d'accès, je me suis arrêté et, voyant que j'avais du réseau sur mon portable, j'ai appelé Bree. Elle a répondu à la première sonnerie et m'a demandé si tout allait bien avant même que j'aie eu le temps d'ouvrir la bouche. J'ai dit que oui et lui ai raconté que Jacobs m'avait offert un boulot. « Tu déconnes ?»« Non, je lui ai dit que j'en voulais pas. » « Bah, encore heureux !» Mais c'est pas ça le plus important. Il dit qu'il en a terminé avec les tournées de Revival et terminé avec les guérisons. Avoir l'attitude réprobatrice de M. Al Stamper, ancien membre des Volites et aujourd'hui assistant personnel de Charlie, je veux bien le croire. Donc, c'est fini? Comme le cow-boy solitaire avait coutume de dire à son fidèle acolyte indien, « Tantôt, notre travail ici est terminé. » À condition qu'il ne fasse pas tout péter avec son électricité secrète. « Appelle-moi quand tu rentres dans le Colorado. » « Compte sur moi, ma belle. C'est comment, New York? C'est génial !» L'enthousiasme que j'ai perçu dans sa voix m'a vieilli d'un coup. Nous avons un peu bavardé de sa nouvelle vie dans la grande ville, puis j'ai enclenché ma vitesse et me suis engagé sur la nationale pour retourner à l'aéroport. Au bout de quelques kilomètres, j'ai regardé dans mon rétroviseur et aperçu une grosse lune rousse sur la banquette arrière. J'avais oublié de donner sa citrouille à Charlie.